Voilà, on poursuit le parcours du livre des Actes. Donc la fois dernière, il est arrivé, on en était arrivé, un événement, crucial, qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église, pas moins, la naissance de l'Église qui est due, l'Église qui est due non pas à une œuvre humaine, qui est due non pas à une prédication extraordinaire, ça va venir après, par l'apôtre Pierre. Non, la naissance de l'Église, elle est due à l'initiative de Dieu lorsqu'il a envoyé son Saint-Esprit qu'il avait promis. Donc à l'initiative de Dieu. Et encore une fois, c'est toujours Dieu qui a fait le premier pas vers nous. Quand on réalise tout ça, dans tous les récits qu'il nous a laissés dans sa parole, c'est toujours lui qui a fait le premier pas, parce que nous étions incapables de le trouver par nous-mêmes. Donc son Esprit a soufflé sur les disciples juifs qui étaient rassemblés à Jérusalem. Et ces disciples juifs de Jérusalem, de Judée, se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises de façon surnaturelle par le Saint-Esprit et qui a surpris les juifs venus des autres nations à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Et c'était donc cet événement qui a constitué la naissance de l'Église. Vous pouvez voir ça en acte, le précédent, acte 2, le verset 5 et tout le chapitre 2 qui est précédent. Oui, la prédication, elle est importante, mais l'Église est née de par l'initiative de Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Ce n'est qu'après l'effusion de l'Esprit que Pierre a prêché l'Évangile. Avec quelle conviction et avec la puissance du Saint-Esprit. Alors je vais vous... Voilà, donc c'est en acte 2, on va reprendre à partir du... Je vais reprendre à partir du verset 36, c'est le verset, la fin de ce qu'a dit... Pascal la fois dernière. Je vais attendre le verset précédent de mon texte. Donc acte 2 à partir du verset 36. Donc la fois dernière, le texte s'est terminé par ce verset, acte 2, 36. C'était la fin de la prédication de l'apôtre Pierre. Il n'a pas pris de détour pour ça. En s'adressant aux Juifs, il a dit, acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pas de détour, hein. On en était donc à rester là, et je vais dire la suite à partir du verset 37 jusqu'au verset 47. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu cela, il eut le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez la devise des trois mousquetaires ? Un pour tous, tous pour un. Alors, j'ai articulé autrement cette devise-là pour que ce soit notre devise à nous, l'Église, la devise de l'Église. Christ pour tous. Tous pour Christ. Et c'est pas fini. Tous pour tous. Christ pour tous, tous pour Christ, tous pour tous. C'est le titre de mon message. Je vais agencer mon message autour de cette vérité qui est l'Église est une communauté d'origine divine qui vit et se développe miraculeusement. L'Église est une communauté d'origine divine, c'est pas humain, qui vit et se développe miraculeusement. Et c'est ce que je vais voir en deux points, deux grands points. Le premier, ça sera l'entrée visible dans l'Église du croyant nouveau-né par le baptême. Et deuxièmement, nous verrons la croissance. Un nouveau-né, il va grandir. La croissance intérieure et extérieure de l'Église. Donc premièrement, la naissance, après la naissance du nouveau-né, c'est l'entrée visible dans l'église du croyant nouveau-né par le baptême. Donc verset 36 qui précédait mon passage, Pierre n'y est pas allé par quatre chemins. Il a affirmé que Jésus, celui-là même qui a été crucifié, est le Seigneur. Et une telle affirmation, celui qui a été crucifié est le Seigneur, ne laisse pas indifférent qu'on soit croyant ou pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé chez ces Juifs, verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. J'ai regardé dans le dictionnaire vivement comment c'est la signification du mot. Le mot traduit par vivement touché signifie avoir le cœur transpercé, le cœur piqué, avoir l'esprit très peiné, être violemment agité, ou encore être transpercé de douleur, émotionnellement. Le Seigneur, il a été transpercé de douleur dans sa chair et dans son esprit. Et sa douleur, elle a rejailli sur le peuple juif qui l'a crucifié en entendant la prédication de Pierre. Le peuple juif a été touché, et n'en doutons pas, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Suite à la prédication de l'apôtre Pierre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a touché le cœur des auditeurs. Alors le Saint-Esprit, il a agi. Quand est-ce que le Saint-Esprit agit? Dans ce passage-là, et aussi d'ordinaire, il agit lorsque nous prêchons l'Évangile à quelqu'un. Lorsque nous prêchons l'Évangile à quelqu'un, rappelons-nous que le Saint-Esprit, il agit déjà en nous. Lorsque nous annonçons l'Évangile, il agit comme il a agi sur l'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché. Mais non seulement il agit en nous, mais il agit aussi, et ça c'est bon de se le rappeler, lorsque nous prêchons l'Évangile fidèlement, la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit sur l'auditeur, celui qui entend la parole de Dieu. Il agit dans le cœur de ceux qui écoutent. Comment le Saint-Esprit agit-il chez l'auditeur? En lui donnant une conviction de péché. Ça aussi, c'est pas notre force de persuasion qui va convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus avait dit en Jean chapitre 16, verset 8, en parlant du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est exactement ce qui s'est passé chez le peuple juif. Vous vous rappelez, en acte 1, 8, Jésus avait promis aux disciples, aux apôtres, et ça vaut aussi pour nous, même si nous ne sommes pas les apôtres qui ont connu Jésus en chair, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, et là, clairement, on la voit à l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit. Elle a agi chez l'apôtre Pierre qui a prêché, et chez les auditeurs, chez le peuple juif, qui a eu le cœur vivement touché. Voilà la puissance du Saint-Esprit dont avait parlé Jésus. Alors oui, les Juifs, ils ont pris conscience de leur responsabilité. Ils ont compris que ce Jésus qu'ils ont crucifié était le Fils bien-aimé de Dieu, qu'il était le Seigneur. Et alors, il demande à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Frères, que ferons-nous ? Que ferons-nous pour échapper au jugement ? Comment apaiser Dieu dans un pareil outrage ? Comment apaiser Dieu ? Eh bien, déjà, Dieu est déjà apaisé. Dieu est déjà apaisé de par le sacrifice de son Fils. Car, par son sacrifice, apaiser la colère de Dieu. Dieu est déjà apaisé. C'est le cœur des Juifs qui a besoin d'être apaisé, et aussi le nôtre. Les Juifs qui ont assisté à la crucifixion de Jésus, eux, certains auditeurs qui sont là, certainement ont crié « Crucifie-le !» au moment du procès de Jésus. Et leur cœur est troublé, profondément troublé, de par l'opération du Saint-Esprit dans leur cœur. Ce que Pierre appelle la génération perverse du verset 40. Alors ce sont leurs cœurs qui a besoin d'être apaisés. Dieu est déjà apaisé par le prix payé par son Fils. C'est le cœur de ces Juifs qui a besoin d'être apaisé. Comment apaiser leur cœur? Autrement dit, quelle est la réponse qu'attend Dieu de la part de celui qui a entendu l'Évangile? Réponse au verset 38. À la question des Juifs, frères, que ferons-nous? Bien, Pierre leur dit, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors là aussi, et c'est bon de remettre les idées en place, hein, remarquez, Pierre ne dit pas « Repentez-vous ». Faites-vous baptiser et vous recevrez le pardon de vos péchés. Certains pensent comme ça. En ayant parlé avec certaines personnes, ça m'est arrivé d'entendre des personnes, notamment dans l'arrière-plan catholique, ils voulaient se faire baptiser parce qu'ils pensaient que le baptême allait enlever leur péché. Non. Non. C'est parce que quelqu'un a écouté avec foi l'Évangile, a accepté Jésus comme Messie et Seigneur et s'est repenti, qu'il reçoit quoi ? Il reçoit en premier l'assurance du pardon de ses péchés. L'assurance du pardon. Il reçoit le salut. Rappelons-nous, on est sauvé par la foi seule. Par la foi seule. Ce n'est pas le baptême qui sauve. On est sauvé par la foi seule. Je rappelle les paroles de l'apôtre Paul en Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, il n'est pas question de baptême ici. La première manifestation de la foi, quand on dit croire en Jésus, eh bien, ça doit se manifester comment ? Par la repentance. Foi en Jésus et repentance sont indissociables. Et c'est quoi la repentance ? C'est pas juste être triste, c'est beaucoup plus que cela. Vous vous rappelez, Judas, quand il a pris conscience qu'il avait trahi son maître, il a été très triste. Il s'est même repenti, la Bible le dit. Sauf que sa tristesse l'a conduit à quoi ? Au suicide. Pourquoi cette tristesse-là a conduit au suicide ? Qu'est-ce qui a manqué ? Eh bien, Judas ne s'était pas tourné vers Dieu, c'est ça qui lui a manqué. La vraie repentance, c'est vouloir abandonner son péché, lui tourner le dos, pour se tourner vers Dieu. Il ne faut pas rester sur sa tristesse. La vraie repentance, elle va nous faire tourner vers le Seigneur qui nous pardonne, qui nous accueille. Et la tristesse va être changée en joie. C'est ce que, en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, nous lisons, on voit Paul qui fait la différence entre les deux tristesses. Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a deux tristesses. Et Judas était, il avait la deuxième. Il ne s'est pas tourné vers Dieu. Et ça a produit effectivement sa mort. Il s'est suicidé. Oui, et ce n'est qu'après, lorsqu'on a cru à Jésus, qu'on s'est repenti, eh bien, que tout croyant est appelé à quoi faire ? Au baptême. Au baptême. Mais remettons-le à sa juste place. Le baptême ne sauve pas, nous enlève les péchés. Pierre s'adresse à tout croyant. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au verset 38. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et alors vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. Alors dans ce cas-là, oui, clairement, le Saint-Esprit, il est bon de se poser la question. Alors, non pas la question... Pas la question de savoir si un croyant reçoit le Saint-Esprit, parce que la réponse, elle est oui, amen, oui et amen. Quand on se tourne vers le Christ, vers le Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit. La question, ce n'est pas de savoir s'il le reçoit ou pas, la question de savoir quand est-ce qu'il le reçoit. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Nous, on aime bien les recettes. Vous savez, on suit la recette selon un ordre très précis, et puis c'est sûr, ça va marcher, selon nos calculs à nous. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça, il est plus grand que nos recettes et il veut qu'on dépende de lui et pas de nos recettes. L'ordre dans la réception du Saint-Esprit, et le livre des Actes nous le montre, l'ordre n'est pas normatif. Pour la bonne raison que la réception du Saint-Esprit a surgi à différents moments. Selon quoi ? Eh bien selon l'auditoire. Ici, Pierre s'adresse à des Juifs, qui plus est, les Juifs qui ont crucifié le Seigneur. Mais la réception du Saint-Esprit, elle est différente selon que, et on va le voir dans le livre des Actes, elle est différente selon que ce sont des Juifs, selon que ce sont des Samaritains, ou selon que ce sont des païens. En Actes 2, 38, donc la promesse. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ici, Pierre prêche l'évangile à des Juifs. Oui, à Jérusalem donc. Des Juifs qui ont crucifié le Seigneur, ils se convertissent, ils se repentent, ils se font baptiser et ils reçoivent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la même époque. Nous vivons la période de l'Église. Du temps des Actes, c'était la naissance de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'Église, depuis la Pentecôte. Et la suite du livre des Actes va nous montrer que le peuple d'Israël va être mis progressivement de côté. Progressivement de côté et aussi provisoirement, pour un temps, le temps que les nations, les païens, nous rentrions dans le plan de salut de Dieu. Donc les Juifs vont être mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'ils vont rejeter le Seigneur. Ils vont rejeter clairement l'Évangile. Aujourd'hui, il n'y a pas encore... dans ce contexte de ce texte, ce n'est pas encore le cas. La persécution, elle ne va pas tarder à arriver après. Mais en tout cas, la suite du livre des Actes montrera qu'Israël a été progressivement mis de côté à cause de son incrédulité. Le temps que les nations rentrent dans le salut de Dieu. Les Juifs sont donc considérés comme des païens à convertir au même titre que les autres païens. Et c'est comme ça que nous devons les voir. Un Juif qui n'est pas chrétien, on le considère comme un autre païen qui a besoin du Seigneur. Comme les autres païens, à cause de quoi ? À cause de leur incrédulité. Quand est-ce qu'a commencé la conversion des païens ? Dans le livre des Actes, c'est pour plus tard, c'est en Actes 10, c'est avec la conversion de Corneille. Corneille, ce n'était pas un Juif, et c'est là, effectivement, qu'on voit les païens se tourner vers Dieu. Et ça se poursuit encore de nos jours. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'Église. La norme, si on peut parler de norme, oui, c'est plutôt celle-ci. Quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit ? Quelqu'un écoute la parole de Dieu avec foi, il croit, il se repent, il reçoit le Saint-Esprit et il se fait baptiser. Donc, selon l'ordre, prédication de la parole, foi et repentance, réception du Saint-Esprit et baptême. C'est plutôt comme ça que nous fonctionnons. Alors, ce n'est pas le baptême qui confère le Saint-Esprit, comme ce fut le cas au début pour les Juifs. Mais c'est la prédication de la parole qui est reçue avec foi et avec repentance. Quelqu'un qui croit à la parole, eh bien, il va recevoir. Quelqu'un qui l'accepte, qui la reçoit, il va recevoir le Saint-Esprit dans son cœur. La promesse du Saint-Esprit, elle est pour tous ceux que le Seigneur appellera, selon le verset 39, et je vous le relis. Car la promesse, de recevoir le Saint-Esprit, et du salut, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc il s'agit d'un appel. On n'a aucun mérite quand on est sauvé. C'est parce qu'on a répondu à l'appel. Dieu nous a appelés à venir au salut. Et l'appel, il est pour tous ceux qui l'invoquent. Il nous appelle, on entend son appel du Seigneur et nous l'invoquons. Et le Seigneur, eh bien, il nous appelle, l'appel est pour tous ceux qui invoqueront le Seigneur et qui sont aussi bien auprès comme au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Parce que nous étions loin. Nous étions loin. Déjà, nous n'avons pas vécu la même époque et puis nous n'étions pas juifs, moi je crois. Nous étions loin, et nous aussi, nous avons crucifié le Seigneur, même si nous n'étions pas présents à l'époque. Nous avons crucifié le Seigneur à cause de nos péchés qu'il a portés à la croix. Il a porté aussi nos péchés à la croix. Le péché, non seulement des Juifs, mais des Samaritains, et des païens de toutes les nations. Pierre, en acte un peu avant, au chapitre 2, il avait rappelé une promesse que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël, qui est celle-ci. On trouve en Joël 2, verset 32, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, tu peux mettre ton prénom à la place. On peut dire ça à n'importe qui, à qui on partage l'Évangile. Et quand le Seigneur dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, est-ce que ça veut dire que les enfants de famille chrétienne sont automatiquement sauvés ? Soyons clairs, non, ce n'est pas le cas. Ils sont juste au bénéfice de votre foi. Si vous êtes croyant, vos enfants sont au bénéfice de votre foi, sous votre toit. Ça n'empêche qu'ils auront besoin, lorsqu'ils auront compris qui est Jésus, ils auront besoin de prendre une décision personnelle d'accepter Christ pour être sauvés. Ils auront besoin, eux aussi, de l'invoquer. Bien sûr, aux parents, de les y encourager, de leur, de leur parler du Seigneur, de leur lire la parole. Le salut, c'est quoi donc le salut? Eh bien, c'est accepter humblement sa parole comme on accepte un cadeau. Quand on vous donne un cadeau, vous ne dites pas combien je te dois. Vous le recevez. Vous le recevez avec reconnaissance. Et c'est ce cadeau que veut nous faire Dieu en la personne de son Fils. Quand on reçoit un cadeau, on n'a aucune prétention, on n'a aucun mérite. On le reçoit humblement. Et c'est ce qu'ont fait 3000 personnes suite à la prédication de Pierre. Pierre qui a appuyé sa prédication par son témoignage. Il avait connu le Seigneur en chair, verset 14. Il y avait aussi son témoignage. 3000 personnes ont accepté la parole et se sont fait baptiser, verset 41. Imaginez Pierre comment il a dû se sentir. Rappelez-vous les paroles de Jésus en Jésus avait dit en Jean 14, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Est-ce que Pierre se doutait que 3000 personnes se tourneraient vers le Seigneur à ce moment-là? Et vous vous rappelez aussi la promesse du Seigneur à l'apôtre Pierre, en Luc 5, verset 10, quand Jésus a dit qu'il fera de lui un pécheur d'homme. Certainement que ces paroles lui sont revenues à l'esprit. C'est ce que nous traitons en ce moment autour de la Bible, pécheurs d'hommes. Et cette promesse, elle n'était pas seulement pour l'apôtre Pierre, elle est aussi pour nous, les disciples, nous l'Église. Jésus avait dit en Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Cette promesse ne s'adresse pas seulement à Pierre, mais à tout disciple qui suit son maître. 3000 personnes donc qui se sont faites baptiser. 3000 personnes qui ont constitué, eh bien, la première communauté chrétienne à Jérusalem, qu'on appelle l'Église. L'Église, constituée de Juifs de Jérusalem et de ceux qui sont venus aussi des autres nations. Donc, la naissance de l'Église, il y a trois éléments qui sont à la base de la naissance de l'Église. Premièrement, on se rappelle, c'est l'initiative de Dieu. Premièrement, l'effusion de l'Esprit. Deuxièmement, la prédication de la parole centrée sur l'évangile de Jésus-Christ. Et troisièmement, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Voilà ce qui constitue la naissance de l'Église, qui se perpétue encore de nos jours. Effusion de l'Esprit, prédication de la parole et baptême. Le baptême, alors, on va s'arrêter sur le baptême. Le baptême de ces Juifs qui avaient crucifié le Seigneur, une fois qu'ils se sont fait baptiser, eh bien, on ne pouvait plus leur reprocher d'avoir crié « crucifie-le ». Ils se sont repentis, ils ont accepté Christ. En se faisant baptiser, le baptême de ces Juifs devint le signe extérieur, visible, que leur rejet de Christ avait été pardonné, effacé, de même que tous leurs autres péchés. Et c'est pareil pour toute personne qui devient chrétienne. Rappelons-nous, le baptême, c'est un signe extérieur de ce qui s'est déjà passé dans notre cœur, d'avoir accepté Christ. Mais on le signifie extérieurement à qui? À l'Église. Le baptême, donc, ne sauve pas. Mais le baptême, c'est obéir à une ordonnance que le Seigneur Jésus avait donnée en Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors le baptême, oui, c'est bien de redéfinir ce que c'est que le baptême. Le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est quoi? C'est s'identifier à lui dans sa mort, quand on est immergé dans l'eau, et on s'identifie à lui dans sa résurrection lorsqu'on sort de l'eau. Avant, le baptême, c'est avant tout cela. Et le baptême, c'est quelque chose de visible, ça ne se fait pas tout seul dans sa baignoire. Le baptême, c'est quelque chose de visible aux yeux de qui? Pas du monde, aux yeux de l'Église. Aux yeux de l'Église, publiquement devant les autres croyants. Et le baptême, on peut dire, c'est le signe visible de l'entrée de ce nouveau frère, de cette nouvelle sœur, dans la communauté locale, dans l'église locale qui l'accueille. Le baptême, donc, c'est s'identifier à Christ, et c'est aussi le signe qu'il veut s'engager dans la vie de l'Église. Quand on se fait baptiser, c'est aussi cela. On signifie aux frères et aux sœurs qui accueillent le nouveau baptisé, je m'engage dans l'Église, pour servir aux yeux de l'Église, Et l'Église, bien sûr, tous pour un, un pour tous. L'Église est unie. Lorsqu'un bébé naît, de quoi a-t-il besoin ? Il a besoin de nourriture pour grandir. Et un bébé, il n'est pas appelé à rester un bébé, il est appelé à grandir. Où ça ? Un bébé, il ne va pas grandir tout seul, il est appelé à grandir dans sa propre famille. Dans sa famille, parce qu'il est incapable de grandir tout seul. Tu iras prendre le biberon dans le frigidaire, tu te feras chauffer, on ne peut pas. Le bébé est incapable de faire ça. Eh bien, c'est pareil pour un nouveau croyant. Un nouveau croyant, la Bible compare le nouveau croyant à un nouveau-né spirituel, ce que nous étions. Le jour où nous avons accepté le Seigneur, nous étions comme un bébé. Ceux qui l'ont accepté, en tout cas. Un bébé, il est incapable de grandir seul. C'est pareil pour un nouveau croyant. Mon deuxième point, eh bien, voyons la croissance intérieure et extérieure de l'Église. L'Église, donc, est appelée à grandir, comme chaque membre qui constitue l'Église est appelé à grandir intérieurement. Et l'Église est aussi appelée à grandir extérieurement. Mais pour grandir, il faut faire partie de la communauté. Quelqu'un qui se coupe de la communauté ne grandira pas autant qu'en en faisant partie. Et c'est triste qu'aujourd'hui, il faut bien le constater, et particulièrement depuis le Covid, certains se sont coupés de la communauté et se satisfont de quelques messages sur Internet. Ça suffit, je suis nourri. Pourquoi ? Ils se sont coupés de la communauté, la réponse leur appartient. Certains ont été déçus ou blessés, ou l'Église ne correspondait plus à leurs attentes. Trop pour les jeunes, pas assez pour les jeunes, pas assez pour les personnes âgées. Chacun sa raison. Mais en tout cas, bibliquement, l'Église n'est pas virtuelle. L'Église n'est pas virtuelle. L'Église, c'est nous qui sommes rassemblés. Vous pouvez vous nourrir d'excellents messages sur Internet, d'excellents prédicateurs. Mais ça ne remplacera pas la vie d'Église. Pourquoi ? Aussi bon soit le prédicateur sur Internet, il ne vous connaît pas. Et vous ne le connaissez pas. Et vous ne connaissez pas non plus les autres internautes qui l'écoutent. Donc ça reste très impersonnel. Et l'Église, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a parfois des très bons webinaires sur Internet. Pour autant, ça ne remplace pas la vie d'Église. Mais dans une Église, nous sommes tous appelés à quoi faire ? À nous connaître les uns les autres, à nous fréquenter les uns les autres, avec nos qualités mais aussi nos défauts, à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. Et ça sur Internet, pas besoin de ça. Nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres. Au nom de celui qui nous a réunis. Nous sommes là parce qu'il y en a un qui nous a réunis, c'est le Seigneur Jésus. Christ pour tous, tous pour Christ. C'est cette devise qui fera que, je précise, Christ pour tous pour Christ, et tous pour tous. Tous pour tous. C'est pas seulement moi avec le Seigneur, c'est aussi moi par rapport à toi, toi par rapport à moi, nous par rapport les uns aux autres. Et c'est comme ça que l'Église va grandir. Elle va grandir intérieurement en maturité et elle va grandir aussi en nombre. En respectant cette devise, Christ pour tous pour Christ et tous pour tous. La parole de Dieu, elle insiste, pour qu'on comprenne bien. Et dans ce passage, si vous avez remarqué, il y a des mots qui sont répétés deux fois. Par exemple, le verbe persévérer, il est répété, il est au verset 42 et il est au verset 46. Le mot chaque jour, quotidiennement, il est répété au verset 46, il est au verset 46 et répété au verset 47. Il y a encore une autre expression qui revient. Ensemble et d'un commun accord. Ensemble, d'un commun accord, c'est répété, alors c'est au verset 44 et au verset 46. Si vous regardez bien ce passage, ce sont des mots qui sont répétés. S'ils sont répétés, c'est pas pour rien, c'est pour bien nous faire comprendre. Alors, déjà, le mot persévérer. Nous sommes appelés à persévérer selon le verset 42. Mais persévérer dans quoi ? L'Église est appelée à persévérer dans quoi ? Je vous lis le verset 42, je vous relis. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la vie de l'Église. Donc persévérer déjà dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Pour grandir, on a besoin, pour grandir physiquement, on a besoin de nourriture. Et pourquoi? Nourriture quotidienne, vous mangez tous les jours, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Pour grandir, on a besoin de nourriture quotidienne. Eh bien, la Bible, parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle qui est tout aussi vitale pour notre âme que la nourriture physique est vitale pour notre corps. Oui, même quelqu'un qui... L'Évangile est pour tous, pas uniquement pour les Juifs, pas uniquement pour quelqu'un qui connaît déjà l'Ancien Testament, l'Évangile est pour tous. Alors une personne qui vient de devenir chrétienne, qui ne connaît pas la Bible, qui n'a jamais lu la Bible, on peut lui conseiller de commencer par lire les Évangiles, le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament reprend l'enseignement des apôtres. Là où nous sommes appelés à persévérer, dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres qui est centré sur la personne et sur l'œuvre de Jésus. Enseignement des apôtres qui a été confirmé par les prophéties de l'Ancien Testament. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber l'Ancien Testament. Non, l'Ancien Testament va nous fortifier, va nous encourager en voyant que les prophéties de l'Ancien Testament, certaines se sont accomplies déjà dans le Nouveau. Nous sommes encouragés à les lire. Toute la Bible est donc bonne à lire, Ancien et Nouveau Testament. Pas seulement les passages préférés, on a tous nos passages préférés, non. Toute la Bible est bonne à lire. Et pas seulement le dimanche ensemble en église, mais aussi, bien sûr, on n'est pas toujours ensemble, aussi lorsque nous sommes chez nous, quotidiennement. Et le mercredi, c'est aussi bon, parce que lorsque nous réunissons le mercredi, nous revenons sur le passage du dimanche. Et c'est riche, parce qu'on ne peut pas tout dire dans une prédication le dimanche matin, mais c'est là aussi où vous avez aussi votre perception du texte, et c'est là aussi où nous édifions les uns les autres. Il y a une chose que toi tu as vue, que moi je n'ai pas vue. Et pour ma part, ça me fait du bien d'aller le mercredi. Voilà, pour réapprofondir ce texte. Nous nous enrichissons mutuellement. Maintenant, peut-être que vous dites, bon, écoute, moi, l'Évangile, je connais. L'enseignement des apôtres, je connais. J'ai déjà lu ma Bible. C'est bon. Mais qu'est-ce que faisaient les premiers chrétiens? Ils persévéraient. Dans quoi? Dans le même enseignement, l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas à la recherche d'une nouvelle doctrine extra-biblique, comme aujourd'hui c'est tellement courant. Certains qui cherchent quelque chose de nouveau. Non. L'enseignement des apôtres doit nous suffire. Parce que toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau, est centrée sur l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Alors c'est quoi la communion fraternelle? Est-ce que c'est une réunion formelle, on va aller à une réunion de plus? C'est beaucoup plus que ça. La communion fraternelle, c'est le désir de se retrouver régulièrement entre frères et sœurs. Avons-nous ce désir? Comment exprimons-nous la communion fraternelle? Eh bien, le verset 42 nous le dit. Les expressions de la communion fraternelle, c'était la fraction du pain. En premier, donc la fraction du pain. La fraction du pain, c'était le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Cène. La Sainte Cène, il y a deux ordonnances laissées par le Seigneur, il y a le baptême et la Sainte Cène. On les appelle des ordonnances. Faites ceci. Et donc la Sainte Cène, c'est au moment du dernier repas, c'est ce qu'il a ordonné aux apôtres de poursuivre après son départ, avant son arrestation. Faites ceci en mémoire de moi. Le pain rappelle le corps du Seigneur qui s'est livré pour nous. Alors, ici, ce texte-là met en rapprochement le baptême, la Sainte Cène. Est-ce qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Cène? Aucun texte ne dit explicitement qu'il faut être baptisé pour la Sainte Cène. Mais, clairement ici, Qui sont ceux qui prennent le repas du Seigneur, qui persévèrent dans la Sainte Cène? Ce sont tous ceux qui se sont fait baptiser auparavant. La Sainte Cène suit le baptême dans l'ordre des choses. Comment définir la Sainte Cène par rapport au baptême? Le baptême, c'est un engagement. On s'engage aux yeux de l'Église, devant l'Église, on s'engage dans l'Église, dans le service, et bien sûr, on s'identifie à Christ, c'est la première chose. On signifie qu'on est devenu chrétien, et on s'engage dans le baptême. La Sainte Cène, on peut la définir, c'est un renouvellement visible aux yeux de l'Église de l'engagement qu'on a pris au moment du baptême. La Sainte Cène, c'est un renouvellement de cet engagement. Et c'est aussi, bien sûr, se rappeler régulièrement le sacrifice de Christ pour nous. Et ça nous invite à nous examiner. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Avec le Seigneur, et où est-ce que j'en suis avec mes frères et sœurs? On entend parfois dire dans des témoignages que des personnes prennent la Sainte Cène sans vouloir être baptisées. Mais prendre la Sainte Cène, le repas du Seigneur, sans vouloir se faire baptiser, ça serait comme, je vais faire un parallèle ici, ça serait comme profiter des bienfaits du mariage sans être marié. Et si on veut suivre le Seigneur et on veut le manifester par la Sainte Cène, qu'est-ce qui empêche de passer par le baptême, par les eaux du baptême? Sinon, la première condition, bien sûr, c'est de devenir chrétien et de le manifester. La communion fraternelle, donc, s'exprime par le repas du Seigneur. Elle s'exprime aussi par quoi? Par la prière, les prières en Église. Et les prières en Église, elles sont complémentaires à nos prières qu'on fait en privé. Les deux sont nécessaires. Le Seigneur a parlé des deux. En priant ensemble, nous manifestons que nous sommes entièrement, totalement dépendants du Seigneur. Nous prions ensemble pour adorer le Seigneur. Nous prions ensemble avant de prendre une décision d'Église. Nous prions ensemble pour la protection du Seigneur sur son Église. Nous prions ensemble pour un service efficace, les uns envers les autres. Complémentaire donc à la prière qu'on fait en privé dans sa chambre. Un pour tous, tous pour un. Autrement dit, tous pour tous, dans l'Église. Et dans ce texte, on voit bien que la communauté, elle est au service de l'individu. Elle est au service de chacun dans l'Église. Et inversement, chacun est invité à se mettre au service de la communauté. Verset 44, ils avaient tout en commun. Alors là, on se dit, mais ça veut dire quoi, là? Ils vendaient tous leurs biens, et est-ce que ça veut dire qu'il faut, quand on devient chrétien, il faut vendre sa maison, tous ses biens, il faut qu'on distribue tout les uns envers les autres, les uns aux autres? C'est pas ce que dit ce texte. Ils avaient tout en commun, non pas à cause d'une loi, qui dirait de vendre tous ses biens et de se les partager. C'est pas une loi. En d'autres termes, c'était pas le communisme avant l'heure. Non, c'était simplement leur cœur qui parlait. À cause du désir de leur cœur de s'entraider et de s'aimer, à cause de l'amour de Christ en eux, eh bien oui, certains vendaient leurs biens pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Le partage des biens matériels fait partie de la communion fraternelle. Le verset 45 nous dit « selon les besoins de chacun ». Selon les besoins de chacun. Un chrétien, s'il a connaissance d'un frère ou d'une sœur qui est vraiment dans le besoin, est-ce qu'il supporterait d'en avoir trop et l'autre pas assez? Dans l'Église. Donc il persévérait dans ces choses-là. Et à l'époque, donc du temps des apôtres, eh bien, les débuts de l'Église étaient accompagnés de miracles de la part des apôtres. Et imaginez la réaction de ceux qui voyaient de tels miracles. Ils avaient peur. Ils avaient la crainte du Seigneur. C'est ce qu'il nous est dit. Hein. Alors, le verset 33 nous dit que la crainte s'emparait de chacun. Alors, les miracles, soyons clairs, ce n'était pas pour impressionner. Les miracles étaient là du temps des apôtres pour confirmer l'enseignement des apôtres qui avaient connu Jésus en chair. Et donc ça pouvait susciter de la crainte. Ça suscitait de la crainte de la part de chacun. Mais attention, cette crainte, ce n'était pas une crainte qui était triste. Je relis le verset 46, un peu plus loin, regardez. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture, comment ? Avec allégresse et simplicité de cœur. Et là, j'ai regardé, le mot traduit par allégresse, ça signifie une joie extrême. Comme quoi, la crainte du Seigneur, elle n'est pas du tout incompatible avec la joie extrême. Au contraire, les deux se rejoignent. La crainte du Seigneur est totalement compatible avec sa joie. Où est-ce qu'il vivait cette joie, les premiers chrétiens ? Eh bien, il la vivait dans les maisons et autour d'un bon repas. Et il leur arrivait de rompre le pain pendant le repas. Et on peut comprendre qu'il y a 3000 personnes qui sont faites baptiser et ça demandait, eh bien, l'Église nécessitait de se structurer, ça nécessitait quelque organisation. Donc il y avait le rassemblement au temple au début, mais pas seulement. Les églises de maison ont trouvé leur place sans concurrencer les réunions publiques dans le temple. Les églises de maison avaient leur place et elles ont toujours leur place. Pas pour concurrencer nos rassemblements comme nous faisons maintenant. Elles sont complémentaires. À ce moment-là, les liens avec le temple n'étaient pas encore rompus. Les premiers chrétiens continuaient de se réunir dans le temple. Les liens avec le temple n'étaient pas encore coupés. La persécution n'était pas encore venue. Donc il y avait des réunions plénières qui se faisaient dans le temple. Mais les premiers chrétiens, ils avaient vécu une telle communion fraternelle ensemble qu'ils voulaient prolonger cette communion fraternelle. Ils avaient vécu une telle joie dans le temple qu'ils voulaient prolonger ces moments où ça ? Dans les maisons des croyants. Et pas pour concurrencer le culte hebdomadaire. Alors oui, s'inviter les uns chez les autres, c'est permis. C'est utile et c'est même recommandé. Et ça se passe aussi chez nous, il n'y a pas si longtemps. Eh bien, Céline et Miguel nous ont invités à manger une raclette et on a passé, je crois, un très bon moment. Tout simplement. C'était après le culte. On s'est retrouvés chez eux. Les églises de maison, donc, où les uns et les autres se retrouvent, ont leur place. À côté, bien sûr, sans concurrencer le culte hebdomadaire, où nous nous retrouvons tous ensemble. Et puis aussi, des non-croyants seraient peut-être plus à l'aise de venir chez un voisin qui est chrétien que de venir directement au culte. Les non-croyants peuvent être touchés. Et c'est comme ça que l'Église a grandi. L'Église primitive, elle était déjà grande à Jérusalem et elle a continué à grandir, aussi de par ses églises de maison. Regardez le verset 47 qui termine notre passage. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'ai regardé le mot Église, c'est la deuxième fois que ça apparaît dans le Nouveau Testament, ici au verset 47. La première fois, c'était lorsque Jésus a promis à Pierre, en Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église est née. Et au début de l'Église, l'Église ne se cachait pas, malgré les risques de persécution qui n'allaient pas tarder à venir. Et comment l'Église grandissait ? Comment est-ce que les uns avaient envie de rejoindre la communauté ? Est-ce que c'était parce que... Alors évidemment, il y en a qui ont le don d'évangéliste. Mais ici, regardons l'évangélisation la plus efficace. C'est en voyant l'amour fraternel en action dans l'Église que d'autres voulaient s'ajouter à eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ils ont quelque chose de spécial que nous n'avons pas. Ils ont dû se dire. Peut-être que tu ne te sens pas la fibre d'un évangéliste. pour partager ta foi, même si nous sommes tous appelés à partager notre foi. Mais la première évangélisation efficace, c'est la vie d'église. Si nous vivons notre vie d'église, aux yeux des autres, lorsque les autres vont le voir, que ce soit dans le temple, que ce soit dans les maisons, quand on invite des voisins, lorsque les autres vont le voir, ça c'est de l'évangélisation. Jésus a dit, en Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il résume tout. Il dit tout ce qu'il y a. Tout est là. « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà l'évangélisation où elle est. L'Église, c'est la première institution choisie par Dieu pour l'évangélisation. Et cela avant même que les missions existent. Les missions qui se sont structurés, sont venus bien après. Au début, il n'y avait que l'Église. Voilà donc les débuts de l'Église, l'Église primitive. L'Église d'aujourd'hui est-elle différente de l'Église primitive, à votre avis? Et notre Église, si on devait se comparer à l'Église primitive? Chacun son avis. Certains ne voudraient rater le culte à aucun prix. D'autres n'ont peut-être pas ou plus le désir de vivre la communion fraternelle, par peur de la routine, par peur d'être déçu. De toute manière, quelqu'un qui devient chrétien devrait aspirer à vivre le verset 42, c'est-à-dire à persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, et surtout à persévérer dans ces choses. Que faire si vous n'y aspirez plus? Si vous êtes là, c'est que vous y aspirez. Mais que faire si d'autres n'y aspirent plus? Eh bien, ce qui nous encourage, n'oublions pas que l'Église est née, non pas après avoir entendu la super prédication de l'apôtre Pierre, non. L'Église, elle était déjà née avant, lorsque Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur les disciples réunis dans la chambre haute. Rappelons-nous, l'Église, c'est une institution divine, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une institution divine fondée et dirigée par Dieu lui-même. Ce n'est pas une œuvre humaine. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et il le fera, jusqu'au bout. Alors, la seule part des disciples... Avant l'effusion d'esprit, que faisaient les disciples? Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Si vous aspirez à une telle vie d'Église, que vous vous sentez loin, moi, c'est parfois... Je m'examine. Où est-ce que j'en suis par rapport au modèle à ce modèle-là? Si vous aspirez à une meilleure vie d'Église, eh bien, priez. Si vous vous sentez loin du modèle de l'Église primitive, il est toujours possible de prier et de laisser Dieu nous utiliser pour son Église et pour sa croissance. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Et Seigneur, quand on voit ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, comme on voit, Seigneur, leur ferveur, Seigneur, oui, c'est vrai, nous y aspirons, Seigneur, nous y aspirons. Et pardonne-nous si parfois la ferveur a baissé, Seigneur, a laissé la place à une routine. Non, Seigneur, on doit chaque jour s'émerveiller de toi, de ta personne, revenir à toi. Et Seigneur... Voilà, merci de donner en nous ce désir, Seigneur, de ne rien rater de ce que tu as pour nous, Seigneur, et de vivre, Seigneur, selon le modèle que tu nous as laissé dans ta parole, Seigneur, de vivre l'Église telle que tu veux qu'on la vive, Seigneur. Merci pour chacun qui la constitue, Seigneur, nous sommes tous différents, chacun n'est pas au même niveau, à la même ancienneté dans sa vie chrétienne, Seigneur, mais tu en as pour tout le monde et avec toi, Seigneur, personne ne doit se sentir dépassé. Tout le monde, Seigneur, tout ce que tu appelles à sa place. Merci, Seigneur, de parler au cœur des uns et des autres, de nous parler à notre cœur et de vraiment nous aider à persévérer dans cette vie d'Église telle que toi tu la conçois, Seigneur. Merci encore pour la joie que nous avons d'être ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen.